Le mardi suivant, je louai un appartement. Semi-meublé dans un bon quartier, selon la petite annonce du Daily News. Et le mercredi 17 septembre, Mr. George Amberson emménageait. Au revoir, Derry Townhouse. Bonjour, Harris Avenue. Cela faisait un peu plus d'une semaine que je vivais en 1958 et je commençais à m'y sentir bien, sans avoir exactement l'impression d'y être né. Le semi-meublé comportait un lit, avec un matelas légèrement taché sans drap, un canapé, une table de cuisine bancale qui avait besoin d'être calée, et une seule chaise, dont l'assise en plastique jaune produisait un désagréable bruit de succion quand elle relâchait à contre-cœur son emprise sur le fond de votre pantalon. Il y avait aussi une gazinière et un réfrigérateur trépidant. Dans le cellier, j'ai découvert le système de climatisation de l'appartement. Un ventilateur General Electric dont la prise effilochée paraissait absolument mortelle. À 65 dollars par mois, je trouvais le loyer de l'appartement, situé juste en dessous de la trajectoire de vol des avions atterrissant à l'aéroport de Derry, quelque peu surévalué. Mais j'y avais consenti car Mrs. Joplin, la logeuse, était disposée à fermer les yeux sur le manque de référence de Mr. Amberson. Que ce dernier puisse avancer 3 mois de loyer en liquide n'y était pas étranger. Elle avait néanmoins tenu à recopier les informations figurant sur mon permis de conduire. Si elle avait trouvé bizarre qu'un agent immobilier indépendant du Wisconsin ait un permis de conduire du Maine, elle n'en avait rien dit. J'étais reconnaissant à Hal de m'avoir remis beaucoup d'argent liquide. Le liquide rassure les inconnus. Il dure aussi beaucoup plus longtemps en 1958. Pour seulement 300 dollars, j'ai pu transformer mon semi-meublé en appartement entièrement meublé. Pour 90 dollars sur les 300, je me suis offert un téléviseur modèle de table RCA. Et ce soir-là, j'ai regardé le Steve Allen Show en noir et blanc superbe, puis j'ai éteint le poste et assis à ma table de cuisine, j'ai écouté un avion se poser dans un rugissement de réacteur. De ma poche arrière, j'ai sorti un carnet Blue Horse que j'avais acheté au drugstore de la ville basse, celui où le vol à l'étalage n'était ni extra, ni bat, ni chouette. Je l'ai ouvert à la première page, et d'un clic, j'ai fait sortir la pointe de mon stylo à billes Parker, tout neuf lui aussi. Je suis resté assis comme ça, pendant peut-être 15 minutes. Assez longtemps pour qu'un autre avion amorce sa descente fracassante vers le sol. Si près que je m'attendais presque à ressentir un choc sourd quand le train d'atterrissage raclerait le toit. La page restait vide. Mon esprit aussi. Chaque fois que j'essayais de l'enclencher, la seule pensée cohérente qui me venait, c'était « Le passé veut pas être changé ». Pas très constructif. Finalement, je me suis levé, je suis allé prendre le ventilateur dans le cellier et je l'ai posé sur le comptoir. J'étais pas sûr qu'il fonctionne, mais si, il marchait. Et le bourdonnement du moteur était étrangement apaisant. Il faut dire aussi qu'il masquait le grondement agaçant du frigo. Quand je me suis rassis, j'avais l'esprit plus clair. Et cette fois, quelques idées me sont venues. Option 1. Prévenir la police. 2. Passer un coup de fil anonyme au boucher. « Je vous ai à l'œil, mon ami. Si vous faites quoi que ce soit, je vous dénonce. » 3. Monter un coup contre le boucher. 4. Mettre le boucher hors d'état de nuire. Là, je me suis arrêté. Le réfrigérateur a émis un claquement et s'est tu. Il n'y avait plus d'avion et plus de circulation. Pour l'heure, j'étais seul avec mon ventilateur et ma liste incomplète. Enfin, j'ai couché le dernier point. 5. Tuer le boucher. Puis j'ai froissé ma feuille de papier, j'ai ouvert la boîte d'allumettes posée près de la cuisinière et j'en ai gratté une. Le ventilateur l'a aussitôt éteinte. Et j'ai encore pensé que certaines choses étaient bien difficiles à changer. J'ai éteint le ventilateur, gratté une autre allumette et approché la flamme de la boule de papier froissé. Quand elle s'est embrasée, je l'ai laissée tomber dans l'évier. J'ai attendu qu'elle soit consumée, puis j'ai fait couler l'eau pour évacuer les cendres. Après quoi, Mr. George Amberson est allé se coucher. Mais il n'a pas dormi bien longtemps. Quand le dernier avion de la nuit a survolé le toit à minuit et demi, j'étais encore réveillé à penser à ma liste. Avertir la police était hors de question. Ça pourrait marcher avec Oswald, qui professerait son amour éternel pour Fidel Castro tant à Dallas qu'à la Nouvelle-Orléans, mais pour Dunning, c'était une autre paire de manches. Il était une figure appréciée et respectée dans son milieu, et moi, j'étais qui ? Le petit nouveau dans une ville où on n'aimait pas les étrangers. Cet après-midi, en sortant du drugstore, j'avais encore une fois aperçu Pat Bretel et sa bande devant le Silver Dollar. J'étais en tenue d'ouvrier, mais il m'avait pourtant jeté ce regard hostile qui signifiait « T'es qui, toi, nom de Dieu ?» Même si j'avais vécu à Derry depuis 8 ans et non 8 jours, qu'aurais-je pu dire à la police de toute façon ? Que j'avais eu une vision de Frank Dunning assassinant sa famille le soir d'Halloween ? Sûr que ça aurait fait sensation. L'idée d'un appel anonyme au boucher me convenait à peine mieux. C'était une option effrayante. Car en appelant Frank Dunning, à son travail ou chez Edna Price, où il prendrait sans doute l'appel sur la ligne collective dans le salon, je changerais les événements. Un tel appel pouvait l'empêcher de massacrer sa famille. Mais je pensais qu'il pouvait tout aussi bien avoir l'effet inverse et le pousser dans le précipice de la folie qu'il devait côtoyer dangereusement derrière son sourire affable à la George Clooney. Au lieu de prévenir les meurtres, peut-être ne ferais-je que les précipiter. En l'état actuel des choses, j'en connaissais le lieu et l'heure. Si je le prévenais, tous les paris étaient ouverts. Quant à monter un coup contre lui, ça pouvait marcher dans un roman d'espionnage. Mais j'étais pas un agent de la CIA, merde. J'étais juste un prof d'anglais. Option suivante dans ma liste, mettre le boucher hors d'état de nuire. D'accord, mais comment ? Le renverser avec ma Sunliner, peut-être, alors qu'il marcherait de Charity Avenue à Cossett Street, un marteau à la main et des idées de meurtre dans la tête ? À moins d'avoir une chance insolente, je serais arrêté et incarcéré. Et puis il y avait autre chose. Dès que Dunning serait rétabli, il pourrait tenter de recommencer. Allongé là dans l'obscurité, je trouvais ce scénario hautement vraisemblable. Parce que le passé n'aimait pas être changé. Il était tenace. Le seul moyen sûr était de le suivre, d'attendre qu'il soit seul, puis de le tuer. Ben voilà. Fais simple, idiot. Mais ça aussi, ça posait des problèmes. Le moindre n'étant pas que j'ignorais si j'en serais capable. Je pensais l'être à chaud pour protéger ma vie ou celle d'autrui. Mais de sang-froid, même en sachant que ma victime potentielle tuerait femme et enfant si personne ne l'en empêchait. Et si je le faisais et que je me faisais prendre avant de pouvoir m'enfuir vers le futur où j'étais Jake Epping et non George Amberson. Je serais jugé, déclaré coupable, et envoyé à la prison d'État de Shawshank, où je croupirais le jour où John Kennedy serait assassiné à Dallas. Mais ce n'était pas encore ça le fond de la question. Je me suis levé, j'ai traversé la cuisine pour aller dans mon cabinet de toilette exigu comme une cabine téléphonique, j'ai pissé, puis je me suis assis sur le siège des WC, le front entre les mains. J'avais supposé que le devoir de Harry était la vérité. Al aussi. Ça l'était probablement parce que Harry n'était pas une lumière. Et les gens comme ça sont moins susceptibles d'essayer de faire passer des fantasmes, comme le meurtre d'une famille entière pour la réalité. Pourtant, être sûr à 95%, c'est pas être sûr à 100%. Avait dit Al. Lui, c'était d'Oswald qu'il parlait. à peu près la seule personne susceptible d'être l'assassin, une fois écartées les rumeurs de conspiration. Or, Hall s'autorisait encore quelques derniers doutes. Vérifier l'histoire de Harry aurait été facile dans le monde informatisé de 2011, mais je n'y avais pas pensé. Et même si son histoire était complètement vraie, il avait pu déformer des détails cruciaux ou omettre de les mentionner. Autant d'éléments qui pouvaient me conduire à l'erreur. Et si au lieu d'accourir à la rescousse, tel le chevalier Galahad, je ne réussissais qu'à me faire tuer comme eux? Voilà qui changerait le futur de toutes sortes de façons intéressantes, mais je ne serais plus là pour découvrir lesquelles. Une nouvelle idée me vint. Une idée follement attirante. Je pouvais me poster en face du 379 Kossuth Street le soir d'Halloween et juste regarder. Pour m'assurer que c'était réellement arrivé, oui, mais aussi pour noter tous les détails que le seul témoin survivant, un enfant traumatisé, avait pu louper. Ensuite, je pourrais rentrer en voiture à Lisbon Falls, remonter par le trou du terrier et revenir immédiatement au matin du 9 septembre 1958 à 11h58. Je rachèterai la Sunliner et retournerai à Derry, nanti cette fois de toutes les informations. J'avais déjà dépensé pas mal de la fortune de Hall, mais il m'en restait assez pour continuer. L'idée a pris une bonne avance, puis a trébuché au premier tournant. Tout l'objectif de ce voyage était de découvrir quel effet aurait dans le futur le fait d'avoir sauvé la famille du concierge. Si je laissais Frank Dunning accomplir les meurtres, je ne le saurais jamais. Et j'aurais de toute façon à en repasser par là, puisqu'il y aurait une remise à zéro du compteur lorsque je repasserais par le terrier pour arrêter Oswald. Si j'y repassais. Une fois, c'était déjà dur. Deux, ce serait pire. Mais trois, non. C'était impensable. Et une dernière chose. La famille de Harry Dunning était déjà morte une fois. Allais-je condamner ces gens à mourir une seconde fois? Même si chaque fois était une remise à zéro et qu'ils ne savaient pas? Et qui étais-je pour affirmer qu'à un certain niveau profond, ils ne savaient pas? La douleur, le sang, mini poil de carotte gisant sous le fauteuil à bascule, Harry tentant de repousser le forcené avec une carabine à air comprimé. « Laisse-moi tranquille, papa, ou je te tue !» J'ai retraversé la cuisine en traînant les pieds, m'arrêtant pour regarder la chaise à l'assise en plastique jaune. « Je te déteste, chaise !» je lui ai dit. Puis je suis allé me recoucher. Cette fois, je me suis endormi presque aussitôt. À mon réveil, le lendemain matin, le soleil de 9h brillait à la fenêtre, encore sans rideau, de ma chambre. Les oiseaux pépiaient avec impudence, et je pensais savoir ce que j'avais à faire. Fais simple, idiot. À midi, j'ai mis ma cravate, coiffé mon chapeau en l'inclinant selon l'angle désinvolte requis, et me suis transporté jusqu'au magasin chasse et pêche Macken, où la braderie d'automne n'était pas encore terminée. J'ai dit au vendeur que je voulais acheter un revolver, car j'étais dans l'immobilier et qu'il m'arrivait de transporter de grosses sommes d'argent liquide. Il m'en a montré plusieurs, dont un Colt 38 Special Police au prix de $9.99. Ce prix m'a semblé ridiculement bas, jusqu'à ce que je me rappelle que d'après les notes de Hall, le fusil italien d'Oswald, acheté par correspondance pour changer le cours de l'histoire, lui en avait coûté moins de 20. « C'est une bonne arme de poing !» m'a assuré le vendeur en dégageant le barillet et en le faisant tourner. Clic, clic, clic. Précision mortelle garantie jusqu'à 15 mètres. Et si quelqu'un avait la bêtise d'essayer de vous agresser pour vous dévaliser, il se trouverait forcément beaucoup plus près que ça. Vendu. Je me suis préparé mentalement à l'examen de mes rares pièces d'identité. Mais une fois de plus, c'était compté sans l'atmosphère décontractée et peu méfiante régnant dans cette Amérique où je vivais désormais. Voici donc comment l'affaire fut faite. J'ai déposé mon argent sur le comptoir. Et je suis sorti avec mon revolver. Pas de paperasse, pas de période d'attente. Je n'ai même pas eu à donner mon adresse courante. Oswald avait enveloppé son fusil dans une couverture et l'avait caché dans le garage de Ruth Payne, la femme chez qui était allée habiter son épouse. Mais quand je suis sorti de l'armurerie avec le mien dans ma sacoche, j'ai pensé savoir ce qu'il avait dû éprouver. La sensation d'être un homme détenteur d'un puissant secret. Un homme capable de déclencher à lui seul une tornade. Un type qui aurait dû se trouver au Turbin, dans l'une des fabriques du coin, se tenait debout sur le seuil du Silver Dollar en train de lire le journal en fumant une cigarette. De faire semblant de lire le journal, du moins. Je n'aurais pu jurer qu'il me surveillait, mais je n'aurais pu jurer du contraire non plus. C'était pas de bretelles. Ce soir-là, je me suis remis en faction non loin du Strand, dont la bannière en façade annonçait « Demain, en première, Thunder Road, Mitchum, et les Vikings, Douglas. Encore de l'action intense en perspective pour les amateurs de toile de Derry. » Dunning a de nouveau traversé la rue pour rejoindre l'arrêt de bus et il est monté à bord. Cette fois, je ne l'ai pas suivi. C'était inutile, je savais où il allait. J'ai regagné à pied mon nouvel appartement, tout en cherchant de temps à autre pas de bretelles des yeux. Il n'était nulle part. Et je me suis dit que sa présence en face de l'armurerie un peu plus tôt dans la journée n'était qu'une coïncidence. Une coïncidence sans grande importance. Le Silver Dollar était son bistrot favori, après tout. Et comme les usines de Derry tournaient 6 jours sur 7, les ouvriers prenaient leur jour de repos par roulement. Ce jeudi était peut-être le jour de repos de ce gars-là. La semaine prochaine, il pourrait traîner au Silver le vendredi. Ou le mardi. Le lendemain soir, j'étais de nouveau au Strand, feignant d'examiner l'affiche de Thunder Road. Robert Mitchum fait rugir le moteur sur la plus dangereuse route de contrebandier. J'y étais surtout parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Halloween était encore à 6 semaines de là, et j'étais, comme qui dirait, entré dans la phase « tuer le temps » de notre programme. Cette fois, cependant, au lieu de traverser pour rejoindre l'arrêt de bus, Frank Dunning a continué jusqu'au carrefour de Center Street, Kansas et Witcham, et il s'est arrêté là, comme indécis. Il était encore super chic en pantalon foncé, chemise blanche, cravate bleue et veston à carreaux gris clair. Il portait son chapeau incliné en arrière. Un moment, j'ai cru qu'il allait venir vers le cinéma jeter un coup d'œil à la plus dangereuse route de contrebandier, auquel cas je me serais nonchalamment éloigné en direction de Canal Street. Mais il a tourné à gauche dans Witcham. Je l'ai entendu siffloter. Il sifflait rudement bien. Je n'avais aucun besoin de le suivre. Il ne commettrait aucun meurtre au marteau le 19 septembre. Mais j'étais curieux et je n'avais rien de mieux à faire. Je l'ai vu entrer au Lamplighter, un bistrot certes moins huppé que ceux de la ville haute, mais nettement moins populo que ceux de Canal Street. Dans toutes les petites villes, il y a un ou deux bistrots frontières où col bleu et col blanc peuvent frayer en égo. Le Lamplighter ressemblait à ce genre d'endroit. Généralement, la carte propose une spécialité locale qui plonge les étrangers dans la perplexité. La spécialité du Lamplighter semblait être un truc appelé miette de homard frit. Je suis passé devant la grande façade vitrée en ralentissant et j'ai vu Dunning traverser la salle en saluant les uns et les autres. Il serrait des mains, tapotait des joues. Il subtilisa le chapeau d'un type et l'expédia à un gars debout près du Bowlmore, la machine de bowling, qui le rattrapa avec adresse dans l'hilarité générale. Un homme vraiment gentil, toujours à faire des blagues et des trucs rigolos. Du genre « Qu'est-ce qu'on s'amuse, les gars ? Rigolez donc avec moi !» Il est allé s'asseoir à une table près du Bowlmore et j'ai failli passer mon chemin. Mais j'avais soif. J'aurais bien bu une bière. Et le comptoir du Lamplighter se trouvait à l'opposé de la grande table où Dunning avait rejoint une compagnie exclusivement masculine, séparée d'eux par une salle bondée. Il ne me verrait pas, mais je pourrais l'avoir à l'œil dans le miroir du bar. Pas que j'imaginais rien voir de bien surprenant, mais sait-on jamais. En plus, si je devais séjourner ici encore 6 semaines, il était temps de commencer à m'y sentir chez moi. J'ai donc fait demi-tour et poussé la porte pour pénétrer dans une atmosphère de voix joyeuses et de rires un peu ivres sur fond de Dean Martin chantant « That's Amore ». Des serveuses circulaient, distribuant des chopes de bière et des assiettes remplies de ce qui devait être les miettes de homard frit. Et il y avait des volutes de fumée bleue montant au plafond, évidemment. En 1958, il y a toujours de la fumée.